Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag au carré. Nous sommes ravis de vous retrouver. Pour animer cette émission, j'ai la chance d'être avec Audrey Jourdain. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet spécifique. Nous allons parler des murs hôteliers et de ces investisseurs qui sont à la conquête des portefeuilles et des régions. Alors, il faut le dire, le marché français de l'investissement en immobilier hôtelier a repris des couleurs en 2021. On en parlera justement avec nos deux invités qui sont en plateau. Jean-Marc Pallon, bonjour.
Bonjour.
Président d'Extendam. Et Philippe Bijaoui, bonjour.
Bonjour Bernice.
Managing Director France de Christie & Co. Alors, on va présenter peut-être brièvement dans quelques instants justement vos deux sociétés. Juste avant, on commence avec notre séquence préférée, celle de votre édito. Audrey, c'est parti.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Globalement, le marché français de l'investissement en immobilier hôtelier a été particulièrement percuté par la crise sanitaire. Avec un volume investi d'un milliard d'euros en 2021, la classe d'actifs a vu sa taille de marché diminuer de 60% par rapport à 2019. Mais la bonne nouvelle est que le marché a effectivement repris des couleurs en 2021, puisque le volume a progressé de 5% par rapport à 2020. Mais surtout, on retiendra de 2021 le boom du marché des portefeuilles ainsi que la suprématie des régions. Et oui, avec 275 millions d'euros en 2021, les portefeuilles ont vu leur volume investi croître de 250% sur un an. Deuxième boom, les régions ont concentré une part de marché de 70%. Mais approfondissons le sujet avec nos deux invités, experts du thème.
Merci Audrey. Place à vous messieurs.
Les invités du carré.
Alors, on va commencer avec vous, Jean-Marc Pallon. Déjà, on va présenter Extendam. Pouvez-vous, alors c'est une société d'investissement,
exactement,
pouvez-vous nous en dire un petit peu plus?
Alors, Extendam est une société en effet d'investissement dans le secteur hôtelier, avec cette particularité, c'est que nous ne faisons que cela. Donc nous investissons que dans le secteur hôtelier en Europe et pas uniquement dans les murs puisque nous investissons systématiquement dans les murs et dans les fonds de commerce. Donc nous sommes intéressés à la fois par la valeur foncière, également par l'exploitation. Nous faisons ça maintenant depuis une dizaine d'années. Nous sommes devenus le leader d'investissement dans ce secteur d'activité avec le plus grand nombre d'opérations qui sont réalisées d'investissement en France et en Europe chaque année depuis maintenant plusieurs années dans ce domaine.
Donc c'est un marché que vous connaissez parfaitement. Vous avez donc senti cette crise sanitaire en 2020. Audrey le disait tout à l'heure, ça s'est effondré. Là, ça reprend des couleurs. Alors, en 2021, vous êtes...
Oui, très clairement. Alors ce qui s'est effondré, c'est le marché de la transaction.
De la transaction, oui, bien sûr.
Voilà. Donc,
tout était à l'arrêt, en fait.
Alors tout était à l'arrêt. Vous avez deux choses. D'abord, en termes d'exploitation, il y a eu deux périodes importantes. On est en train de vivre plutôt une troisième. La première, c'est que durant le premier confinement, les hôtels étaient essentiellement fermés. Donc ça a été un choc important. Mais finalement, sur une période qui a paru très longue pour les hôteliers, mais qui était finalement assez courte, puisqu'elle a duré de mars à juin 2020. Et en ce qui nous concerne, l'essentiel des hôtels ont rouvert durant l'été 2020 et en fait n'ont jamais refermé. Avec une différence et une très forte résilience constatée en région. Donc les hôtels ont retrouvé un niveau d'activité assez important dès l'été 2020. En revanche, dans les grandes villes, ça a pris beaucoup plus de temps. Et maintenant, depuis 9 mois, depuis l'été 2021, on est rentré dans une troisième période qui est en train de se conforter et on est en train de tangenter, de retrouver des niveaux d'activité qui sont beaucoup plus conformes à ce qu'on pouvait connaître en 2019. Donc, prudence, mais quand même un vrai optimisme au regard des chiffres que l'on constate aujourd'hui au quotidien et des réservations que l'on voit dans les hôtels, avec notamment un second trimestre 2022 qui pourrait surprendre plus d'un.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, les réservations, tout est complet.
Enfin, tout est complet. Voilà, on parlait souvent d'un retour à normalité 2023-2024. En tous les cas, sur le marché français aujourd'hui, pour l'instant, on s'attend en tous les cas à un deuxième trimestre assez record et peut-être plus important que celui qu'on a connu en 2019, qui était un millésime 2019, qui est un des plus importants de la décennie.
On espère en tout cas.
Espérons.
Vous avez acquis 36 hôtels en 2021, seulement 5 hors de France. Est-ce qu'on peut dire que vous souhaitez vous concentrer exclusivement, presque, sur la France ?
Alors, la réponse est non. Déjà, lorsqu'on parle d'un marché de la transaction qui s'est effondré de 70 et quelques pourcents en 2021 et qu'on réalise 36 opérations, c'est-à-dire quasiment 2 à 3 par mois, c'est un rythme extrêmement soutenu. Ce que nous avons réussi à faire, parce qu'on a à la fois on travaille avec Christian Co et d'autres brokers, mais également on arrive à sourcer des opérations par nous-mêmes. Et en fait, le fait qu'on n'ait fait que 5 opérations en Europe, c'est une des conséquences, pour le coup, de la crise du Covid. Ce qu'on a fait en 2021 sont essentiellement des opérations qui ont été sourcées en 2020. Mais en revanche, en 2020, il faut se remettre dans le contexte. Quand finalement, vous êtes astreint à un confinement extrêmement dur, vous ne pouvez pas vous déplacer, voyager, que les hôtels sont fermés, que vous ne pouvez pas, je dirais, les visiter, voire les faire expertiser pour avoir un avis de valeur, c'est extrêmement complexe. Alors autant en France, on a pu sortir un peu de chez nous et trouver les moyens de pouvoir y voir quelques actifs, à l'étranger, c'était un peu plus compliqué. En revanche, comme 2021 était une année qui était meilleure d'un point de vue possibilité de déplacement et autres, on va voir dès 2022, notamment chez nous, un niveau d'activité au niveau européen qui est assez important. La dernière opération qu'on a annoncée il y a peu de temps est une opération en Espagne. Et on est très actif aujourd'hui sur Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Pays-Bas et Belgique, qui sont les principaux territoires, on va dire, pour l'hôtellerie dans la zone euro. Voilà.
D'accord, que vous visez, vous
que
aussi,
l'on vise, voilà.
Également, par la même occasion. Deux hôtels en Allemagne en 2021. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce marché hôtelier pour un investisseur professionnel ?
Il a plus de forces que de faiblesses, parce que c'est un marché qui est extrêmement mature, très structuré, et qui a une particularité, un point commun avec le marché français, c'est qu'il bénéficie d'une très forte clientèle domestique. Donc la clientèle domestique est celle qui a été un moteur de résilience, notamment très important durant la période du Covid, et donc avec des hôtels qui ont pu continuer à fonctionner en l'absence d'une clientèle étrangère. Alors en fait, le marché allemand, il a deux zones en fait territoriales. Vous avez soit les très grandes villes, à l'instar des Francfort, des Munich, des Hambourg, qui vont concentrer l'essentiel des investissements des investisseurs internationaux, avec une concurrence qui est extrêmement forte, et pour autant avec des taux d'occupation qui ne sont pas forcément supérieurs de la moyenne allemande, et avec des créations de chambres qui restent encore relativement importantes. Donc c'est un territoire très intéressant que nous regardons, mais qui est... Nous sommes fortement en concurrence là-dessus. En revanche, dans des zones secondaires, soit dans des villes secondaires, soit dans des zones territoriales comme la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui est juste un territoire de près de 200 km de long, où il y a une concentration d'entreprises, de populations actives extrêmement forte, dans des villes qui sont parfois un peu plus inconnues, on peut avoir des actifs avec des taux d'occupation extrêmement intéressants et des taux de remplissage, je dirais, avec des actifs en semaine, et y compris en léger le week-end, qui sont très satisfaisants. Donc, on aime bien regarder ce genre d'actifs du côté d'Extendam également.
Voilà. C'est ce que vous visez
Oui, parce que ce qui nous intéresse, c'est des actifs dans lesquels on peut être conforté par des fondamentaux qui sont extrêmement importants et dans lesquels on peut encore apporter de la création de valeur. On est vraiment là pour apporter de la création de valeur.
Et là, vous parlez des actifs malgré le télétravail, du coup, des personnes que vous visez.
Mais le télétravail n'est pas antinomique avec « je me déplace dans un hôtel ». Donc, lorsque vous avez besoin de faire un déplacement professionnel, vous continuez à le faire. Le télétravail a induit de nouveaux comportements, donc a accéléré le nomadisme, qui n'est jamais inintéressant pour des hôtels.
Pour des hôtels, oui.
Et puis a introduit une nouvelle notion, qui est une notion qu'on n'avait pas, qui est la notion du bi-résidentiel. Alors, on connaissait le bi-résidentiel des jeunes seniors qui partent à leur retraite, vont finalement vendre leur résidence principale pour aller faire de leur résidence secondaire leur résidence principale, mais qui pour autant ont envie de revenir un peu dans les villes où ils étaient auparavant pour avoir de la famille, qui cherchent pas forcément à acheter, mais à se loger pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui télétravaillent et qui sont des sans domicile fixe durant la semaine pendant quelques jours, quand ils reviennent sur leur siège principal et avec des demandes de leur qu'ils font près de leur entreprise, essayez de me trouver, non seulement je veux télétravailler, mais quand je reviens, aidez-moi à trouver un logement. Et donc on a beaucoup de sujets, d'accords cadres que l'on sommes en train de passer avec pas mal de nos hôtels et d'entreprises pour trouver des solutions de logements intelligents à toutes ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est dans la durée qu'on pourra apprécier tout ceci, mais il ne faut pas trop surréagir, parce qu'il y a des opportunités ou des nouveaux comportements qui naissent un peu tous les jours et auxquels on ne pouvait pas forcément imaginer les conséquences immédiatement.
Et c'est vrai que la crise sanitaire a bouleversé un peu
les
comportements de chacun. Pour finir, quelle est votre stratégie d'investissement actuelle ? Dans quelle optique vous êtes ? Vous le dites,
Alors, ce qu'on va faire, on va continuer à faire ce qu'on fait déjà depuis maintenant une dizaine d'années. Donc c'est de l'investissement mur et fonds, parce que mur et fonds, vous alliez un peu, de notre point de vue, un peu le meilleur des deux mondes, je dirais à la fois la résilience de la valeur foncière, et vous rajoutez une possibilité de dégager des rendements complémentaires grâce à l'exploitation, et donc de pouvoir tirer des rendements qui sont parfois entre 10 à 12%, ce qui est assez important, y compris parfois dans des zones prime, où c'est très difficile, dans l'immobilier plus traditionnel ou sur des classes d'actifs hautes, de tirer en général plus de 3, 4, 5%, c'est assez compliqué, donc on va continuer à faire cela. Et puis c'est un marché qui est drivé, je dirais, par des fondamentaux qui est extrêmement positif pour l'investissement pour la prochaine décennie notamment, qui est drivé, un, par le fait que structurellement, il y a une demande d'hébergement qui croît plus vite que l'offre, parce qu'il y a des réserves foncières constructibles qui sont très tendues. Deuxièmement, aujourd'hui, autant avant, on pouvait construire de nouveaux hôtels, mais avec la prise de conscience qu'il fallait arrêter d'artificialiser les sols. Donc maintenant, et l'étalement urbain, donc il faut reconstruire la ville sur la ville. Mmh. Et pour autant, on ne pouvait pas faire sortir des hôtels comme ça de terre sur la ville n'importe comment. Donc il faut reconstruire sur les propres hôtels, des actifs qui deviennent vieillissants. Donc il y a un marché. Puis tous les comportements dont vous parliez en une partie, donc le nomadisme, le télétravail, les villes qui recherchent à redynamiser les quartiers, qui cherchent plus de liens sociaux. Donc un hôtel s'associe, c'est un actif pour moi qui est remarquable, parce que j'associe au-delà d'une valeur foncière, une valeur stratégique très intéressante qui est liée à l'exploitation. Et on va faire non pas des hôtels pour nous faire plaisir à nous, à Philippe ou à moi, mais pour répondre à des besoins de gens qui vont les utiliser demain. Et je rappelle que 75% de la population mondiale sera des milléniums à horizon 2025. Et ce sont eux, avec leur comportement et leurs nouveaux usages, on va devenir des caméléons, je dirais, pour pouvoir, je dirais, aller sur ces nouveaux usages de toutes ces nouvelles personnes. Donc des challenges qui sont passionnants pour nous, en tous les cas, investisseurs.
Et c'est vrai, vous l'avez dit, la densification des villes concerne évidemment les hôtels.
Bien évidemment, comme toutes les autres classes d'actifs immobiliers.
Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, on parle des logements, mais les hôtels en font partie également.
Exactement.
Et il faut le dire. Philippe Bijaoui, alors, vous allez déjà nous présenter, hein, puisque vous êtes Managing Director France de Christie & Co, nous présenter, donc broker et conseil, présentez-nous votre entreprise.
Alors, Christie & Co existe depuis 1935, on est coté à la Bourse de Londres, au second marché. On est présent en Europe et on est en Europe continentale spécialisé dans l'hôtellerie, dans la classe d'actifs hôtelière uniquement. On est leader européen au niveau du brokerage, de la transaction et du conseil en hôtellerie, en investissement hôtelier.
Donc marché que vous maîtrisez parfaitement, vous aussi. Alors, première question, l'attentisme des vendeurs est-il en train de s'atténuer? En d'autres termes, est-ce que le marché de l'offre se débloque?
Alors, la réponse est oui. On constate en début 2022 le fait que les valeurs des transactions de 2021 et même celles de 2020 n'ont pas énormément subi les effets de la crise, comme on pensait que ça allait se passer. Quand on a vu les hôtels fermés, des taux d'occupation extrêmement bas et tout ça, les investisseurs se sont attendus à ce que les valeurs baissent fortement. Mais il y a eu très peu de transactions, et les transactions qui ont eu lieu en 2020 et 2021 ont eu lieu à des valeurs à peine plus basses que celles de 2019.
Et vous disiez que vous vous attendiez à quelque chose, vous ne vous attendiez pas à ça.
On ne s'attendait pas à ça, on s'attendait à des baisses de valeurs beaucoup plus importantes. Mais il y a plusieurs éléments qui ont fait que ces valeurs n'ont pas bougé. D'abord, c'est la demande forte et la présence de capitaux importants partout en Europe. Donc, à chaque fois qu'il y avait un hôtel en vente, on avait énormément d'acteurs qui s'annonçaient. Cet effet de surenchère a fait maintenir les valeurs.
Et juste ces acteurs, c'était qui en fait? C'était quel profil?
Stendam,
par exemple,
notamment, mais aussi des investisseurs internationaux qui s'intéressent à cette classe d'actifs qui finalement sur lequel on se place sur le très long terme. Chacun sait que une crise telle qu'on l'a connue a un temps. Mais finalement, sur le long terme, ils savent très bien que ça va se résorber, ça va passer, on va revenir au niveau d'activité, au niveau de performance qu'on avait connu avant. Donc, les valeurs sont maintenues en 2020, mais il y a eu quand même un certain scepticisme de la part des vendeurs potentiels en 2021. Fort est de constater en 2021 que les valeurs se sont encore maintenu. Et donc, en 2022, on sent que ceux qui voulaient vendre, en tout cas, ou ceux qui avaient l'intention de vendre en 2000, avant la crise, ont mis leurs biens en vente. Et il y a une augmentation de l'offre. assez significative, en tout cas au premier trimestre.
Ah oui, en premier trimestre 2022.
Premier trimestre 2022, oui, on sent un petit peu partout en Europe, puisque nous sommes présents non seulement en France, mais au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Scandinavie, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'offres en ce moment, en premier trimestre 2022, qu'en 2021.
Et pour tous ces territoires
oui, pour tous les territoires.
Hein. Quel territoire étudie justement les investisseurs particulièrement qu'est-ce que...
Alors, si on prend la France, on va dire que les grandes villes ont toujours la cote, ça n'a pas changé.
Il n'y a pas une petite, depuis la crise, une petite baisse, non ?
Non, et très bizarrement, au niveau des investisseurs internationaux, ils ne connaissent que Paris, donc ils veulent être à Paris. Et les hôtels en boîte vide. Et on
Paris
subit une crise sans précédent depuis la crise Covid en 2020 et 2021. Mais ils veulent partout être à Paris. Il y a un phénomène de rareté quand même au niveau des chambres à Paris. Il y a eu des créations de chambres, mais il y a eu des disparitions de chambres aussi sur le marché parisien. Et donc, et on connaît, et on voit, on peut constater aujourd'hui, comme Jean-Marc l'a dit, que l'activité a repris très fortement en 2022. Et donc, on s'attend à ce que les investisseurs veulent être à Paris. Mais il y a des nouveautés au niveau du territoire, c'est tout ce qui est loisirs. Que ce soit l'hôtellerie de montagne ou nos 5000 et quelques kilomètres de littoral en France, ça attire énormément d'investisseurs nationaux et internationaux. Et c'est assez nouveau parce que c'est une classe d'actifs qui est assez saisonnière. Et je pense qu'il y a quelques années, ils ne savaient pas comment gérer cette saisonnalité. Maintenant, il y a des opérateurs qui se sont spécialisés là-dedans, qui savent très bien gérer cette saisonnalité. Et on a vu que... justement pendant cette crise, que les actifs, les hôtels de loisirs ont très bien résisté. Et donc, il y a énormément de demandes sur l'hôtellerie de loisirs en ce moment, celle de montagne en particulier.
Et le changement climatique fait-il peur pour ces actifs, justement ?
Pas sur
le montagne, non.
Écoutez, l'hôtellerie de montagne, on parle souvent de l'impact des changements, du changement climatique sur l'hôtellerie de montagne, tout ça. Il y a des nouveaux comportements aussi qui se sont créés au niveau de la montagne, c'est-à-dire la montagne plaît aussi en été. De plus en plus d'hôtels sont ouverts en été. Il y a des activités en été qui se sont multipliées, toutes sortes de VTT électriques, de choses comme ça. Mmh. Et ce qui fait que ça attire aussi bien les visiteurs.
Ça, je pense que c'est depuis le confinement aussi, cette envie de nature. Les Français, et je pense même les Européens, ont envie de se ressourcer, d'être au bord de la mer, à la montagne.
Absolument, ça a fortement contribué à ça. Et aussi, peut-être que le fait qu'on ne puisse pas passer les frontières en 2021, peut-être que les Français ont découvert la France et que c'était finalement un très, très beau pays et qu'on pouvait y séjourner et avoir des activités très agréables aussi ici. Et
c'est vrai qu'on a le choix en France. Quelle typologie de risque observez-vous le plus souvent chez les investisseurs professionnels ?
Alors, ça n'a pas changé. Il y a les investisseurs spécialisés dans l'hôtellerie comme Extendam ou des family office investisseurs opérateurs. Eux prennent tous les risques. Ils sont conscients de ce risque. Ils savent gérer ces risques-là. Donc ça n'a pas changé par rapport à... c'est quelque chose qui est constant, qui n'a pas changé. Et bien, il y a les investisseurs qui sont plus institutionnels, qui vont regarder que les murs et être accompagnés par un opérateur qui va leur verser un loyer. Et ça, on se rapproche beaucoup plus de l'immobilier traditionnel, puisque ces investisseurs-là vont voir la capacité de l'opérateur à payer son loyer. On peut avoir des investisseurs qui ont envie d'avoir aussi, sans prendre trop de risques, mais être aussi intéressés à
la création de valeur.
À la création de valeur, donc avec un phénomène de loyer variable. Mais la plupart regardent les loyers fixes et des murs avec des fondamentaux importants.
Donc on peut dire que les investisseurs recherchent plutôt des actifs sécurisés ou plus risqués avec la création de valeur.
Moi, je dirais qu'il y a deux types d'investisseurs, ceux qui ne veulent pas prendre de risques et ceux qui sont prêts à en prendre. Et je ne sais pas lequel des deux a le plus de poids, mais en tout cas...
Et en termes de pourcentage, je veux dire, de vos...
Chez Christie & Co, on peut dire que nous vendons sur 20 hôtels, on vend un hôtel où il n'y a que les murs. Et le reste, c'est mieux au fond.
Oui. D'accord. Donc c'est assez faible.
C'est assez faible, oui, en effet.
D'accord. Quelles tendances suivent les valeurs vénales et pourquoi ?
Alors, la tendance pour l'instant, c'est que les valeurs se sont maintenues. Maintenant, il y a des phénomènes qui risquent d'affecter ces valeurs sur le long terme. Bon, le coût de l'énergie, notamment. Et les contraintes environnementales jusqu'en 2030. Il y a certains établissements qui vont devoir entreprendre des travaux très importants pour pouvoir être conformes à cette réglementation, oui. Et je pense que ça risque d'affecter certaines valeurs.
Ouais, parce que c'est, quand on parle de travaux, tout de suite, c'est faramineux.
C'est pas toujours faramineux, mais ça peut être important. Ça dépend de quel type d'actifs, de quels hôtels. Il y en a qui sont difficiles à traiter.
Par exemple,
les lobbies, ce qu'on appelle Atrium. Vous voyez, l'impact est très important au niveau air conditionné, chauffage et isolation et tout ça. Ça a un certain coût. Maintenant, tous les immeubles qui sont construits nouvellement sont construits conformément à cette nouvelle réglementation. Donc, l'utilisation des matériaux, les isolants, ce qui est très bien d'ailleurs, tant mieux. Maintenant, l'inventaire hôtelier existant, il y a un peu de tout. Et pour certains, il y a un effet sur les valeurs, oui, en effet.
Et vous parliez du coût de l'énergie aussi, ça va impacter...
Le coût de l'énergie, on espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais en effet, pour l'instant, on peut constater que fortes augmentations du coût d'énergie pour les hôtels, c'est normalement dans les normes, on est normalement à 2 à 3% du chiffre d'affaires, on passe de 4 à 5% du chiffre d'affaires, par exemple.
D'accord, donc on double
pratiquement
on
ça,
double
ça,
le
ça,
chiffre d'affaires
ça, double presque.
Pratiquement. L'avenir à court terme, moyen terme, comment vous le voyez pour votre
c'est ce
entreprise
que l'avenir.
Comment vous l'imaginez en fait au sein de Christie & Co.
Moi, je pense que au sein de Christie & Co, on est une équipe qui travaille en collaboration avec tout le monde hôtelier. Je tiens à dire, puisque j'ai remarqué là, que j'ai énormément apprécié qu'Exendam se rapproche de nous. Dès le début, on était encore confinés, on savait pas combien de temps ça allait durer et tout ça. Et on s'est tous rapprochés, on a formé une petite communauté d'hôteliers, finalement, parce qu'on est tous des passionnés de ce métier. Et on a dit, bon, il faut tenir bon, il faut continuer l'activité. Et on a continué à se parler. Pendant les mois, on pouvait pas sortir. Et dès qu'on a pu mettre un pied dehors, on a continué à travailler. Et on a réussi, même en 2020, à faire des transactions. Et je pense que ça a fortement contribué au dynamisme du marché qui se reprend. Très modestement, encore une fois, mes concurrents aussi, tout le monde est ami du sien. Et finalement,
ça vous a rapproché, en fait.
Formidable. Oui, non, c'était formidable de voir qu'on est une communauté qui se tient les coudes et qui arrive à communiquer, à créer de la valeur et à chercher à
échanger et s'entraider.
À s'entraider, exactement.
Communauté résiliente, on peut le dire.
Très résiliente. Et les exploitants aussi. Il faut saluer ça aussi. Ils ont été très créatifs. Ils ont trouvé des idées pour continuer à exploiter leur business. Ils ont ceux qui n'avaient pas de restauration pendant les périodes où il y avait le couvre-feu ont servi des plateaux repas régulièrement. Ils sont mis à faire de la restauration alors qu'ils en avaient pas. Et ça leur a permis ils ont adapté leurs horaires. Enfin, ils ont été très, très, très souples et ils se sont très bien adaptés.
C'est un beau message en tout cas, une belle communauté. Merci infiniment messieurs d'être venus sur le plateau du MAG au carré. Merci Jean-Marc Pallon, je rappelle que vous êtes président d'Extendam, société d'investissement. Et merci Philippe Bijaoui, Managing Director France chez Christie & Co, broker et conseil. Merci Audrey Jourdain.
Merci Bérénice.
Rédactrice en chef de la lettre Carré. Et on se retrouve, nous, le mois prochain, comme d'habitude, pour un nouveau numéro du MAG au carré.
Le MAG au carré, en partenariat avec la lettre Maître Carré.